Bonsoir à tous et bienvenue dans Sport à bas, votre émission sportive hebdomadaire où nous revenons sur les moments forts du sport africain et international. Ce soir au programme, un week-end plein de rebondissements en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération de la CAF, ainsi qu'un aperçu du rallye Paris-Dakar en Arabie Saoudite. On va également parler de ce match palpitant en Première Ligue entre Manchester United et Liverpool. Man City également qui se réveille avec deux victoires d'affilée. Nous sommes avec nos consultants sportifs pour les analyses et décryptages de ces événements sportifs. Amine Birouk qui se trouve au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Élisée Nkpatine qui se trouve au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Eric et bienvenue au Bénin.
Amédine Si, bonsoir Amédine.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Afrique.
Alors, on va commencer avec la Ligue des Champions CAF. Al-Hilal freiné, l'AS FAR et Yang en bonne position. Amine, je vais commencer avec vous. Al-Hilal n'a pas réussi à valider sa qualification pour les quarts de finale après un match nul, un but partout contre le Mouloudia d'Alger. Quelles sont selon vous les chances du club soudanais de se qualifier encore dans ce groupe A?
Le club soudanais est déjà qualifié virtuellement. Il lui faut un tout petit point, 3 victoires, un match nul. Match nul est certes arraché de justesse contre l'équipe algérienne du Mouloudia. Mais ce qui est certain, c'est que les Soudanais font un excellent travail. Il faut louer le fait qu'ils jouent tous leurs matchs de manière délocalisée ou à l'extérieur. Lorsqu'ils reçoivent, c'est à Nouakchott qu'ils le font, dans la mesure où depuis 2 ans, ils participent au championnat mauritanien. Il faut prendre en compte la situation politique dans le pays, au Soudan. Et puis en déplacement, c'est une équipe qui s'en tire bien sous la direction de Florent Ibengué, une équipe très équilibrée qui a réussi à relever ce défi et qui a aujourd'hui 5 points d'avance sur son dauphin, le Mouloudia, qui en totalise 5 uniquement. Et donc, mathématiquement, c'est presque fait. Il suffirait d'un match nul lors de la prochaine journée pour voir l'équipe soudanaise confortablement installée en quart de finale de la compétition.
Élisée, l'AS FAR et Yanga semblent bien partis pour les quarts de finale. Que pensez-vous de leur forme actuelle et de leur chance d'aller loin cette saison?
Et bien évidemment, Asfar, hein, qui avec un entraîneur expérimenté et bienvenu, qui est en train d'abattre un travail remarquable, hein, du côté de la capitale du Royaume. Donc, c'est dire que cette équipe reste invaincue jusqu'à présent, 0 défaite, 2 victoires, 2 nuls, avec la plus belle manière, celle de ce week-end-là, en s'imposant 2-0 face au Congolais de Maniema Union. Et bien, Asfar s'est détaché au classement avec 3 points d'avance sur le Sud-Africain de Mamelodi et 4 sur le prochain adversaire. Il s'agit bien évidemment du second représentant marocain, le Raja de Casablanca. Donc, la prochaine journée promet, donc, puisqu'il y aura un derby marocain entre les deux équipes, ça va être très disputé de bout en bout. Malheur aux vaincus. Et pour revenir un peu à ce que Al-Hilal est en train de réaliser cette saison, Amine Birouk l'a dit, c'est pas facile, hein, de jouer à l'extérieur, puisque nous le savons tous, le pays est en guerre depuis plus de 18 mois. Vous imaginez qu'il faudra prendre par un championnat qu'on n'est pas habitué, le championnat mauritanien, que déjà cette équipe arrive à tenir tête à des géants du continent, notamment le TP Mazembe, qu'on ne présente plus, cinq fois vainqueur de cette Ligue des Champions et qui est souvent fréquent. Hein, c'est 5 dernières années en cours de la CAF où il a déjà remporté la compétition. Il y a aussi le MC Alger, le Mouloudia d'Alger qu'on ne présente plus. Donc vous imaginez le Al-Hilal de Omdurman, hein, le club entraîné par le Congolais Florent Ibengué, en train de faire forte sensation, hein, déjà très bon, très, très proche de la qualification avec 5 points sur le second et 6 points sur Young Africans. Yanga en difficulté, Yanga qui doit cravacher très fort pour pouvoir se qualifier pour le prochain, pour les quarts de finale, puisque le prochain adversaire de Yanga, ce sera Al Hilal, qui sera le match qui va se jouer du côté de la Mauritanie. Ça s'annonce un peu compliqué, vu que le club tanzanien a des difficultés à voyager cette saison. Pour, si on prend un peu ces voyages, c'est un seul match nul obtenu du côté de Lubumbashi. Donc ça s'annonce très très compliqué, en attendant un dernier match qu'il faudra jouer à fond. Si entre temps le Yanga arrivait à prendre les trois points du côté de la Mauritanie, il faudra battre le MC Alger lors de la dernière journée. Donc ça s'annonce très compliqué. En tout cas, chaque match compte désormais pour une finale. Il faudra jouer à fond afin d'espérer avoir une qualification pour les quarts de finale.
Amédine, toujours les deux questions. Al Hilal qui est freiné, l'Esfar et Yanga en bonne position.
Oui, Al Hilal, Amine l'a dit, comme elle disait, hein, Al Hilal, c'est la révélation de cette compétition, puisque les Soudanais sont en train quand même de créer la sensation. Ce qu'ils sont en train de faire est tout simplement inédit, hein, il faut le dire. Avoir ces résultats alors que ils jouent dans un autre pays, ils n'ont même pas de championnat, ils participent à un championnat qui est celui de la Mauritanie, un championnat qui n'est pas tellement relevé. Il fallait le faire et les Soudanais sont en train de le faire. En tout cas, il reste deux journées seulement et ils ont un pied en quart de finale, il faut le dire. Maintenant, il faut négocier quand même les deux rencontres qui restent pour s'offrir quand même cette qualification historique. Maintenant, quant à l'UBE Phare, comme vous le savez, les équipes marocaines sont des équipes qui sont vraiment prêtes pour ces genres de compétitions. À part les clubs qui nous viennent d'Égypte, je pense que les Marocains sont bien placés pour faire du temps au bout de cette Ligue africaine des champions. En tout cas, ils sont bien partis pour valider leur ticket lors des deux journées, Eric.
Amine, comment vous analysez le niveau de football livré par ces équipes en Ligue des champions?
On ne peut pas dire qu'il y a une grosse différence entre les formations. D'ailleurs, vous l'avez pu le constater, une équipe comme l'Ali qui a mis 6 buts à 1 à Belouizdad il y a moins de 10 jours s'est inclinée face à ce même adversaire en Algérie 1-0, sans dire long sur la motivation des équipes. Et le secret, c'est de prendre le maximum de points à domicile. Prendre 9 points ou 7 points à domicile, c'est la garantie de garder ou de préserver ses chances jusqu'à la dernière journée. Et en grignotant, en grappillant quelques points en dépassement, n'importe quelle formation est capable de se retrouver en quart de finale. Vous avez un nivellement de valeur à tel point que l'Ali n'est pas assuré de se qualifier avant la 5e ou la 6e journée, alors que l'Ali a dominé un marché sur le football africain depuis des années. Mais cette équipe est coutumière de démarrage en mode diesel. Vous avez Mamelodi Sundowns qui est habitué du dernier carré de la compétition, qui est en ballotage défavorable, et vous retrouvez des équipes comme le TP Mazembe ou l'Espérance de Tunis qui ne sont guère fringantes aujourd'hui. Il y a un nivellement de valeur. Le football d'Afrique du Nord continue à garder la main sur le reste des régions du continent, mais il y a aujourd'hui des outsiders qui sont capables à domicile sur un match de créer la sensation. Preuve en est le bon comportement de l'Hilal du Soudan, le comportement plus qu'excellent de l'AS FAR qui retrouve la compétition pour la première fois depuis 2008, et preuve en est aussi toutes ces formations qui sont en difficulté et qui ont pour habitude de jouer les premiers rôles dans cette Champions League africaine.
Élisée, le stade malien est en difficulté après une nouvelle défaite. Quels ajustements l'équipe doit-elle apporter pour rester en course pour la qualification?
Oui, déjà, il ne fallait pas perdre ce match à domicile et contre quand même un grand du continent, hein, puisqu'il s'agit de la Renaissance de Berkane, hein, cette sélection qui est déjà en 4 éditions, a déjà remporté 2 fois le trophée et 2 fois finaliste, vous imaginez. Donc c'est l'un des clubs les plus constants dans cette Coupe de la Confédération, et en face le stade malien qui quand même a bien démarré, ou bien disputé cette rencontre avec beaucoup d'occasions, mais qui n'est jamais parvenu à trouver la faille face à une équipe de la Renaissance très bien organisée. Renaissance qui n'a pas perdu le moindre match, qui n'a même pas enregistré un seul match nul, hein, puisque en 4 matchs, c'est 4 victoires. Berkane s'est déjà qualifié à l'issue de cette 4e journée. Le stade malien qui était 3e avant cette 4e journée se retrouve maintenant en 3e position. Une position très difficile, hein, une position qui le met en difficulté, puisque lors des 2 prochaines journées, il faut quand même se surmonter. Hein. Déjà, il y aura une finale contre les Sud-Africains de Stellenbosch, puisque là, ça va se jouer entre les deux clubs. Là, lors de la prochaine journée, le match aura lieu du côté de l'Afrique du Sud. Donc ça s'annonce très compliqué pour le Stade malien qui, avec son entraîneur, Mamoudou Kané et Morlé, qui l'a dit en conférence de presse, qu'il était fier de la prestation de ses joueurs. C'est vrai qu'en face, c'était une équipe expérimentée, donc il n'a rien à reprocher à ses joueurs. S'il y a défaite, il se sent responsable. Maintenant, il faut aller chercher 6 points si véritablement les Blancs de Bamako veulent faire partie des 8 meilleurs clubs du continent.
Amine, la renaissance de Berkane a réalisé un carton plein avec 4 victoires en autant de matchs. Quelle est la clé de leur succès dans cette compétition?
C'est une équipe qui, depuis 8 ans, régulière au niveau de cette compétition. Elle a joué déjà 4 finales. Ça en dit long sur l'expérience accumulée. Elle a su se renforcer par petites touches année après année. Et cette année, elle a porté la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire ce qui lui manquait. Un gardien de but au niveau international avec Moudir Mahdi, qui a été gardien de but titulaire lors de la Coupe du Monde 2018 avec le Maroc, et remplaçant de Bruno. Il était entré en jeu lors du match contre la Belgique lors de la Coupe du Monde. Il a été au JO avec l'équipe du Maroc, donc il a ce savoir-faire, cette expérience. Dans chaque ligne, il y a un taulier, comme Issoufou Dayo, le capitaine qui Burkinabé, comme Morabit, le milieu de terrain, comme Khairi, comme les attaquants. Il y a de la qualité dans cet effectif, il y a le facteur expérience et puis il y a le coaching avec le Tunisien Moïn Chiabani qui a conduit les Espérances de Tunis à 2 Champions League en 2018 et 2019. Si vous ajoutez à cela une bonne gouvernance et une bonne gestion au niveau du comité, vous avez les secrets de cette success story qui fait que cette petite ville de l'Oriental au Maroc est capable de devenir un bastion fort du football africain. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a derrière le président de la Fédération royale marocaine de football qui est originaire de la ville et qui suit de très près l'activité et l'actualité de ce club qui est aujourd'hui le favori numéro 1 pour gagner la Coupe de la CAF.
Amédine, nous sommes à quelques semaines du CHAN, le Sénégal se prépare à son grand rendez-vous.
Tout à fait, hein, le CHAN, c'est dans exactement un mois, hein, puisque ce sera du 1er au 28 février. Et comme vous le savez, les équipes sont en train, hein, d'affûter leurs armes et le Sénégal en fait partie, puisque le Sénégal est détenteur du titre. Et le Sénégal va tenter de faire ce qu'on appelle un back-to-back historique, puisque en 2023, en Algérie, le Sénégal avait réussi pour la première fois de l'histoire à remporter ce championnat des nations réservé aux autres locaux. Donc, du côté de la direction technique du Sénégal, on s'affaire à trouver quand même des matchs amicaux pour les Lions locaux du Sénégal. Et présentement, ils ont ciblé des équipes comme le Burkina Faso, comme la Mauritanie et la Guinée. La fédération compte même participer à des tournois, hein, à des tournois, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire, à Dubaï ou au Rwanda. En tout cas, ils font tout pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent quand même conserver ce titre. D'ailleurs, ils sont en regroupement actuellement puisque Souleymane Diallo, qui est le nouveau coach de cette équipe, qui a remplacé Pape Thiaw, comme vous le savez, il a pris maintenant les destinées de l'équipe nationale à la place d'un certain Aliou Cissé, et Souleymane Diallo aura la lourde tâche quand même de succéder à Pape Thiaw, qui a donné quand même ce titre pour la première fois de l'histoire du Sénégal. Et en ce moment, les Lions sous locaux sont en train d'affûter les armes pour être fin prêt pour ce tournoi que les Sénégalais donnent beaucoup d'importance, puisque actuellement le Sénégal est sur une bonne dynamique. Hein. Élisée l'avait dit lors de l'émission passée, le Sénégal a réussi ce qu'on appelle quand même le grand chelem, puisque toutes les équipes nationales du Sénégal sont qualifiées pour les Coupes d'Afrique, que ce soit les U17, les U20, l'équipe nationale locale, l'équipe nationale de beach soccer, l'équipe nationale féminine, et c'est sur le gâteau l'équipe nationale A qui va essayer de gagner un deuxième titre. Ce sera au Maroc de Amine Diouf et ce sera pas facile face à ces excellents Marocains, Eric.
Merci. Nous avons Jules qui nous a rejoint. Jules, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Oui.
Bonsoir à tous.
Quels sont les autres prétendants sérieux dans cette compétition qui va démarrer dans quelques semaines?
L'Espagne qui va démarrer dans quelques semaines est une compétition ouverte surtout à, disons, aux équipes qui ont des joueurs locaux suffisamment aguerris. Et le plus souvent, ce ne sont pas les équipes de, des États de premier plan. Et donc, je crois que toutes les formations qui sont des formations montantes auront leur chance. Donc, il ne faut pas focaliser sur le Maroc, il ne faut pas focaliser à tout prix sur la RDC. Mais les équipes comme la, la Centrafrique, comme l'Ouganda et comme l'Angola peuvent très bien se faire remarquer parce que c'est des équipes qui, même dans la formation Fanion, ont des joueurs qui opèrent au pays.
Nous sommes dans Sporama, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur VOA Afrique. Eric Manirakidza avec vous au micro. On va maintenant parler du football en Europe avec ce trophée des champions en France. C'est le PSG qui l'a remporté face à Monaco. Jude, je commence avec vous. Est-ce un bon augure pour la suite de la saison, surtout après les départs estivaux en une minute?
Oui, on peut dire que depuis l'ère Qatari, il y a quelques inquiétudes au PSG avec les départs des joueurs majeurs cette année. Surtout que cette, l'équipe parisienne a atteint la demi-finale de la Ligue des Champions, disons que très récemment, à l'avant-dernière édition. Et donc, et il était... attendu que cette équipe se repositionne un peu comme un futur champion possible. Mais les départs des joueurs majeurs l'ont relativement ramené au niveau des bonnes équipes européennes, mais pas des supers équipes. Bon, donc Paris Saint-Germain se reconstruit. J'espère qu'il va recruter d'autres joueurs majeurs pour remonter un peu le niveau de l'équipe.
Oui, il faut signaler qu'il n'y a pas encore de départ signalé ou confirmé. Élisée, Monaco a montré de belles choses malgré la défaite. Que manque-t-il à cette équipe pour rivaliser avec le PSG sur la durée?
Sur la durée, ça va être difficile hein, puisque Monaco, Monaco n'est pas dans les mêmes dynamiques que le Paris Saint-Germain. Monaco, après une voire deux saisons, eh bien, il y a plusieurs départs. Ce n'est pas le cas du côté du Paris Saint-Germain qui est en train de construire une équipe afin de remporter la Ligue des Champions. Côté Monaco, bon, on forme les jeunes, on prend quelques expérimentés, puis on fait une saison et après on vend les jeunes. Donc vous voyez, donc il n'y aura pas, Monaco ne pourra pas combattre le Paris Saint-Germain qui a une équipe solide en France, en Ligue 1. C'est vrai que par le passé, on a vu Montpellier ou encore Monaco remporter le championnat, mais ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, Paris Saint-Germain domine amplement cette Ligue. Monaco, c'est quand même une très belle saison déjà avec une troisième place derrière l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain en championnat avec un bon parcours des champions, avec à la clé cette victoire contre le FC Barcelone. Mais pour le moment, pour l'heure, Monaco ne peut pas rivaliser avec le club parisien.
Amine, en première ligue, Manchester United a tenu tête à Liverpool, 2-2 dans un match intense, il faut le signaler. Ce partage des points peut-il être considéré comme un tournant dans la saison des Red Devils?
Les Red Devils, peut-être, parce que après avoir battu Manchester City sur le fil il y a quelques semaines, ils avaient perdu 3 matchs d'affilée. Et vous voyez une équipe qui était en train de sombrer. Donc ça peut être un bon signe pour les hommes de Bruno Amorim. Mais de là à les voir jouer les premiers rôles dans le championnat, il y a une marge entre eux et les Reds. Et justement, s'il y a 80 km qui séparent Liverpool et Manchester, il y a tout simplement un duel fratricide. Avec un avantage sur les dernières saisons pour Liverpool. Sauf que, vous avez vu, une équipe de Manchester plus combative, mieux organisée, qui a su mener au score, qui a été rattrapée et dépassée par Liverpool, mais qui a eu les ressources pour égaliser, voire même avoir la balle de victoire par, ses attaques.
Maguire qui a raté...
Maguire qui a raté justement le cadre et qui aurait pu offrir un joli hold-up à l'équipe de Manchester United. Mais aujourd'hui, s'il y a une équipe qui marche sur la première ligue, s'il y a une équipe qui domine le football européen, parce que c'est un football énergique, tonique, avec un Mohamed Salah qui marche sur l'eau, c'est bien l'équipe de Liverpool qui est aujourd'hui le premier prétendant au titre en Angleterre.
Ahmedine, après cette performance, peut-on dire que Manchester United a retrouvé sa solidité défensive?
Non, il ne faut pas danser plus vite que la musique, hein, Eric.
C'est vrai que c'est une bonne performance parce que tenir en échec cette équipe de Liverpool qui marche sur l'eau, c'est un bon résultat. Mais le problème, c'est de faire en sorte pour avoir d'autres résultats comme celui-là. C'est ça le problème de United en ce moment. Ils parviennent de temps en temps à faire de bons résultats, mais dans la durée, ils sombrent. Donc, attention, faisons doucement et faisons confiance à ces joueurs de Manchester United, mais il ne faut pas encore danser avant la musique.
Jules, Manchester United, Manchester City, qui a signé deux victoires d'affilée, qui a enchaîné donc avec deux victoires, est-ce qu'on peut parler du retour du grand Man City?
Oui, c'est ça. Disons que ce serait peut-être trop avancé. Il faut savoir que depuis l'année passée, ou même deux éditions, les joueurs sont très éprouvés. Ils sont engagés dans plusieurs compétitions pendant l'année, dont les organismes sont éprouvés. Et c'est ce qui explique de temps en temps ces baisses de régime comme celui que connaît actuellement Manchester City. Depuis quelques journées. Mais sinon, les joueurs de base sont de bons joueurs et c'est un problème de récupération. Mais je suis assez pessimiste dans la mesure où le corps n'est pas une machine et donc fatalement, il y aura, disons, un fléchissement au niveau des résultats, comme on le constate ces derniers temps, surtout quand on voit qu'en fin de compte, la FIFA a maintenu son championnat du monde des clubs et ce championnat du monde des clubs viendra après certains championnats continentaux. Alors vous imaginez qu'à ce rythme-là, et c'est sur les rotules que les joueurs vont finir.
Amine, en 30 secondes.
Retour Manchester City peut-être, parce que c'est un bon signe, victoire d'affilée. Haaland qui se remet à carburer, mais on va voir, hein, parce que ce qui est bien dans le boxing day, c'est qu'on ne sait toujours pas qui c'est qui va gagner le championnat, mais on sait toujours qui c'est qui peut le perdre. Manchester City avait quitté la zone des possibles qualifiés pour la Champions League. Elle est sur les talons des quatre premiers, en tout cas des troisièmes et du quatrième. On verra si ce sursaut d'orgueil des hommes de Guardiola va avoir plus de continuité et Man City va retrouver le premier plan, c'est juste un petit feu de paille. Mais ce qui est certain, c'est que les citizens seront beaucoup plus forts au printemps prochain lorsqu'il s'agirait d'aller gagner la Champions League. Leur véritable test, leur véritable examen, ce n'est pas en Première Ligue, mais ce sera contre le Paris Saint-Germain lors d'un match couperé qui aura lieu dans quelques semaines du côté du Parc des Princes.
On va terminer avec le rallye Dakar à Medine Si en 30 secondes. Le Dakar en Arabie Saoudite est un défi brutal pour les pilotes. Quelle importance accordez-vous à la gestion des pauses et des conditions de campement dans un rallye aussi exigeant?
Bon, d'abord, je commencerai par vous dire mon étonnement. Depuis que le rallye a été délocalisé, pourquoi la façon Dakar jusqu'à présent? C'était Paris-Dakar, il faut le comprendre. Ce rallye créé par Thierry Sabine en 1978, il partait de Paris pour revenir à Dakar. Mais depuis la délocalisation de ce rallye qui se déroule maintenant en Amérique ou en Arabie Saoudite, pourquoi on maintient quand même ce nom Dakar alors que Dakar ne voit pas le rallye? Ça, c'est une première chose à dire. Mais maintenant, pour répondre à ta question, il faut dire que c'est une compétition très, très dure. Surtout en ce moment, la deuxième étape va se jouer sur 48 heures. Donc, les voitures vont faire presque 1000 km, 948 pour être plus précis. Ce sera très dur, mais c'est une compétition extrêmement difficile pour les pilotes. Et j'espère que ça va bien se passer pour eux parce que l'histoire du rallye Dakar a toujours démontré qu'à chaque édition, il y a des problèmes, il y a beaucoup d'accidents, il y a même eu des morts. Donc, nous ne le souhaitons pas, mais je pense que pour cette fois-ci, ça va bien se passer, Eric.
Paris-Dakar, c'est la marque de la compétition. Le tenant du titre a été victime d'un accident. Peut-il encore prétendre à la victoire après cet incident? Nous verrons ce qui va se passer à la fin de cette compétition. Merci à vous tous pour votre participations respectives, Amine Birouk, Élisée Ongpatine, Jules Valentin Ngwe, Ahmed Insi, Eric Manilakis a été avec vous au micro, José de Morissin assure la réalisation de cette édition. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.